l'écoute de Radio France Internationale, il est 6h30 à Abuja, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Toute l'actualité africaine avec Vincent Dublanche. Bonjour Vincent.
Bonjour Mario, bonjour tout le monde.
À la une, le retour des déplacés internes en question dans le nord du Nigeria.
Ils pensaient être revenus dans une zone plus ou moins sécurisée, mais un attentat pourrait les pousser à fuir de nouveau. Le Nigeria où démarrent aujourd'hui les travaux en vue du sommet des chefs d'État de la CDAO qui se tient ce dimanche. L'alerte de la Lucha en RDC. Attention à la justice expéditive, dit l'organisation contre les militaires accusés de désertion. La réélection en Mauritanie du président Razouani, confirmé par le Conseil constitutionnel. Et puis le journal des sports dans 10 minutes avec le tirage au sort hier en Afrique du Sud des groupes de qualification à la prochaine CAN de foot. Et d'abord donc le Nigeria, l'inquiétude de l'ONU dans l'ancien fief de Boko Haram, Gwoza, éphémère capitale du califat aux troupes proclamées il y a 10 ans par les djihadistes dans le nord du pays. Ce week-end, un attentat y a fait une trentaine de morts, signe que la situation sécuritaire demeure tendue. Pourtant, ces dernières années, nombre d'habitants étaient rentrés à Gwoza. Ils sont d'ailleurs accompagnés pour cela, notamment par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, qui s'alarme d'une volonté de repartir chez les personnes qui viennent de se réinstaller sur place. Moïse Gomis a interrogé la porte-parole du PAM au Nigeria, le WFP pour l'acronyme anglais.
À Gwoza, le couvre-feu imposé par l'armée nigériane est levé depuis mardi dernier. Pourtant, Chilaël, la porte-parole de WFP, craint les effets de ce triple attentat sur les habitants.
Une chose aussi simple qu'aller au marché devient une question de vie ou de mort, parce qu'ils ne savent pas que s'ils vont au marché ou à un mariage, comme le cas de samedi nous l'a montré, ils peuvent très bien être une cible, ils peuvent très bien perdre leur vie.
Longtemps occupé par le groupe armé Boko Haram, Gwoza a vu depuis le retour de dizaines de milliers de déplacés, en majorité des agriculteurs. À cause de l'attentat de ce week-end, beaucoup de personnes n'osent plus aller cultiver leurs champs, comme l'observe déjà Chilaël.
Le nord est censé être la zone agricole du Nigeria. La production alimentaire de cette zone est nécessaire pour nourrir l'ensemble du pays. Donc si on ne pratique plus l'agriculture dans le nord du Nigeria, nous aurons des millions de personnes qui souffriront de la faim.
Et selon WFP cette année, la crise alimentaire pourrait concerner 32 millions de Nigériennes et Nigérians, conséquence de l'insécurité dans le nord-est, mais surtout le nord-ouest du pays. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
La capitale fédérale du Nigeria, qui est aussi le siège de la CDAO. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation sous-régionale s'y réunissent aujourd'hui, prélude au sommet des chefs d'État ce dimanche. Quels sont les sujets sur la table? Envoyé spécial Serge Daniel.
La santé de l'organisation régionale est fragile, a reconnu devant les ministres des Affaires étrangères le président de la commission de la CDAO, Omar Ali Touré. Énumère, sur le plan sécuritaire par exemple, impossible jusque-là de mettre sur pied une force antiterroriste opérationnelle. En plus, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui constituent dans le Sahel l'épicentre de la lutte contre les djihadistes, ont claqué la porte de l'organisation et malgré l'assouplissement des sanctions contre eux, la situation est toujours bloquée. Ce dossier reste un caillou dans la chaussure de la CDAO. Il y a à Abuja ceux qui demandent de prendre acte de la rupture avec ces trois pays et d'assumer les conséquences, et d'autres pays qui plaident encore pour des négociations. Sur un autre sujet, le plan de développement des pays membres de l'espace CDAO est de plus en plus remis en question. Outre le terrorisme, il faut compter avec l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes. Pour bon nombre de délégués ici présents, l'heure n'est plus au discours. La CDAO est en train de devenir de plus en plus une coquille vide. Il faut agir, a-t-on entendu, dans les couloirs de la Réunion. Serge Daniel, Abuja, RFI.
Et alors qu'un sommet de la CDAO se tient donc ce dimanche à Abuja, Mali, Burkina Faso et Niger se retrouvent, eux, à Niamey. Premier sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce sera demain, samedi, alors que les trois pays ont fait part de leur volonté de quitter la CDAO pour créer cette nouvelle organisation. Dans l'est de la RDC, dans la province du Nord Kivu, épicentre des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, l'armée est plutôt sur le reculoir. Face à cette situation, les autorités congolaises optent pour la répression. Il y a 4 mois, la peine de mort a été rétablie pour les militaires coupables de trahison. Les procès se multiplient. 22 soldats, dont 3 capitaines, sont jugés depuis hier dans le territoire de Lubero, au nord de Goma, pour avoir fui devant l'ennemi. Le verdict pourrait d'ailleurs tomber aujourd'hui. Mercredi, ce sont 25 autres militaires qui ont été condamnés à la peine capitale par la justice militaire, qui s'était pour l'occasion très symboliquement déplacée tout près de la ligne de front. Stewart Mwindo de l'organisation La Lucha met en garde toutefois contre une justice trop expéditive.
On espère en fait que ces condamnations à mort ne seront pas exécutées parce qu'on sait tous avec quelle rapidité le procès a été organisé et ce que ça représente en tant que garantie de bonne justice pour les condamnés. Mais surtout, on craint que lorsqu'on est une armée qui n'a pas suffisamment de matériel, qui n'est pas suffisamment mieux commandée, qu'on met la pression sur les militaires pour qu'ils se battent sur le terrain. C'est important de leur donner les moyens militaires et tous les soutiens nécessaires. Si vous êtes abandonné à vous-même et que vous ne pouvez pas faire le poids face à une rébellion bien armée et que de l'autre côté, vous savez que si vous fuyez, vous serez condamné à mort dans un procès expéditif où vos droits ne sont pas garantis, il y a un sérieux risque de désertion et même d'adhésion à l'ennemi. Donc c'est pourquoi c'est toujours important de s'assurer que les militaires ont les moyens de mener la guerre et veiller à ce qu'évidemment le procès qui leur sont faits lorsque certains d'entre eux s'enfuient, au moins que leurs droits les plus élémentaires sont respectés.
Un propos recueilli par Alexandra Branjon, le conflit autour du M23 dans le Nord Kivu qui cristallise les tensions entre la RDC et le Rwanda voisin. Conséquence, frontière ouverte avec parcimonie depuis 2 ans entre les villes de Goma au Congo et de Rubavu au Rwanda. C'est le reportage de la rédaction aujourd'hui à retrouver sur RFI.fr alors que l'on est à 10 jours maintenant des élections législatives et présidentielles au Rwanda. Scrutin pour lequel le président Paul Kagame est candidat à un 4e mandat, lui qui dirige de facto le Rwanda depuis 1994 et la prise de pouvoir du FPR qui a mis fin au génocide des Tutsis. Depuis, de nombreuses voix accusent régulièrement son régime de museler les voix critiques. D'autres, au contraire, estiment qu'il a réussi à stabiliser un pays déchiré par l'indicible atrocité du massacre à grande échelle. 800 000 à 1 million de morts en 3 mois. Le débat a récemment repris après la publication d'une enquête de plusieurs médias internationaux sur les intimidations, les exécutions extrajudiciaires contre ces ressortissants à l'étranger dont est accusé le Rwanda. C'est l'enquête dite « Rwanda Classified ». Hier, à l'occasion de la fin officielle des 100 jours de commémoration du génocide de 1994, le président candidat Paul Kagame a répondu.
« A few people outside still do not... »
Certains à l'étranger ne comprennent toujours pas les Rwandais. Certains d'entre eux essaient même de nuire à ce que nous construisons et nous le voyons. Mais tous ces efforts négatifs n'ont aucun résultat. Ce ne sont que des mots sur Internet ou des déclarations, quelque part, qui viennent de bureaux haut placés, mais qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Les valeurs que les Rwandais ont acquises font maintenant partie de nous et il n'y a personne et rien d'assez fort pour nous les enlever.
To take that away from us.
Le président rwandais Paul Kagame, Radio France Internationale, 5h38 à Nouakchott. Le Conseil constitutionnel de la Mauritanie entérine la réélection de Mohamed Ould Razouani pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Il faut dire que, comme on le disait hier sur RFI, il n'y a eu aucun recours déposé malgré les contestations verbales de certains opposants. Polycarpe Samba.
En l'absence de tout recours des 6 autres candidats, les résultats de cette élection ont été validés telle une lettre à la poste par le Conseil constitutionnel. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, militaire de carrière de 67 ans, élu pour la première fois en 2019, remplit ainsi et c'est officiel pour 5 ans à la tête de la Mauritanie. Le président réélu a même reçu les félicitations de 3 de ses concurrents, dont Ahmad Ould Sidel Moutar, candidat du parti islamiste Tewassoul, selon différents communiqués des états-majors de campagne. En son dissonant cependant, celui de Biram Da Abed, son principal rival, arrivé 2e à ce scrutin. Ce dernier, militant anti-esclavagiste qui conteste les résultats du vote, dit qu'on continuer à tendre la main pour un dialogue avec le pouvoir pour résoudre la crise post-électorale. Pour rappel, les résultats proclamés lundi par la CENI avaient provoqué des troubles dans certaines villes du pays. Selon les chiffres officiels, 3 personnes avaient été tuées et 2 policiers blessés.
Polycarpe Samba du service Afrique de RFI. Un peu plus au nord, en Tunisie, la présidentielle approche, ce sera le 6 octobre, on le sait depuis un communiqué présidentiel mardi soir. Et hier, l'instance électorale a tenu une conférence de presse à Tunis. On connaît désormais les détails des règles du jeu, Mathieu Galtier.
La révolution électorale n'a pas eu lieu. Les conditions pour être candidat varient très peu par rapport à la loi précédente électorale. La nouveauté est que les candidats ne peuvent pas être binationaux. ils doivent abandonner leur autre nationalité pendant la campagne et non après leur éventuelle victoire. L'âge minimum a été relevé de 35 à 40 ans. Comme auparavant, seuls les musulmans peuvent participer. Le système de parrainage a peu bougé. Les candidats doivent obtenir les signatures de 10 députés ou de 10 représentants de la Chambre des régions et des districts créée en 2022. Ils peuvent aussi se faire parrainer par 40 présidents de collectivités locales ou 10 000 citoyens. Pas de restrictions liberticides pour empêcher les candidatures face aux présidents sortants, comme le craignait l'opposition. Mahmoud El Ouaer, membre de l'instance électorale, a même rappelé que les politiciens en prison, en attente de leur procès, peuvent être candidats.
Les cas spécifiques, ça doit être traité dans le cadre de la loi et de la réglementation. On ne peut pas faire des conditions spécifiques à ces gens-là. Si la loi et la réglementation leur permettent de se porter candidat, il y a d'autres procédures qui protègent leurs droits, en tout cas.
Le dépôt des candidatures se terminera le 6 août. La campagne électorale se déroulera du 14 septembre au 4 octobre. Mathieu Galtier, Tunis, RFI.
Pour rappel, plusieurs figures des oppositions tunisiennes sont en prison. Une partie des oppositions ont d'ores et déjà dit qu'ils ne présenteraient pas de candidats, notamment la grande plateforme du Front de Salut National qui rassemble large de la société civile à la gauche tunisienne en passant par les islamo-conservateurs d'Ennahda. À Madagascar, on y va pour terminer ce journal. Le quatrième et dernier jour hier des épreuves du brevet chahuté, perturbé par une suspicion de fuite du sujet d'anglais sur le réseau social Facebook. Dans toute la grande île, du coup, les élèves ont dû plancher sur un sujet de dernière minute, ce sujet de secours copié à même le tableau noir. Pauline Le Troquier s'est rendue devant les grilles d'un lycée d'Antananarive. Reportage.
La confusion règne devant le portail de ce centre d'examen où une foule de parents et d'élèves s'agglutine ce matin.
Je suis en colère parce que tous mes camarades ont fui le fuite de sujet.
Même avec un sujet de secours fait pour mettre les élèves sur un même pied d'égalité, Jessica ne peut contenir son agacement face aux pratiques de fraude.
Comment dire, moi j'ai étudié mais eux n'ont pas et c'est de la triche.
Assina guette avec inquiétude l'arrivée de son fils au loin. Elle craint que le diplôme du brevet finisse par perdre sa valeur au fil de ces scandales réguliers.
Mon fils aîné a passé le bac l'année dernière, mais il doit le repasser cette année car lui aussi avait été perturbé par des problèmes de fuite de sujets. Alors ça nous inquiète que ce scénario se répète avec le brevet de mon autre fils.
Des événements que la société civile attribue à des failles logistiques dans l'organisation de ces examens officiels. Michel Andjamia Zanerine, responsable du plaidoyer au sein du Mouvement national pour l'éducation pour tous.
Nous apercevons qu'il y a des sujets utilisés lors de l'examen qu'on va acheminer par le taxi brousse, les transports publics. Et moi, je trouve que c'est très risqué. Et c'est quand même un sujet officiel et c'est quand même une source de fuite.
Face à ces perturbations, la police et la gendarmerie ont été saisies. Des suspects ont par ailleurs été arrêtés, assure à RFI, une source au sein du ministère de l'Éducation nationale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et merci de nous écouter sur Radio France Internationale. Je vous laisse en compagnie de Marion Casanov, RFI Matin.
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Vincent Dublanche. Il est bientôt 7h42 à Paris, 5h42 en temps universel.